France Inter.
Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir, cher Éric.
Bonsoir, mon cher Thomas, et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, nous l'aurons, la promesse de Bruno Retailleau en déplacement cet après-midi à la sous-préfecture d'Alès. 48 heures après le meurtre d'un fidèle musulman dans la mosquée voisine de la Grand-Combe, le ministre de l'Intérieur, critiqué par une partie de la gauche qui lui reproche à demi-mot d'être moins prompt à réagir quand il s'agit de victimes musulmanes. Et puis nous serons en direct de la place de la République à Paris où se tient depuis une heure un rassemblement contre l'islamophobie. À la une également ce soir, le Canada en deuil après la mort de 11 personnes percutées par une voiture qui a délibérément foncé sur la foule. Durant un festival à Vancouver, nous entendrons les mots du Premier ministre canadien. Nous serons à Rome où les cardinaux commencent à jouer de leur influence pour trouver un successeur au pape François, même si le conclave ne se réunira pas avant le lundi 5 mai. En Iran, le bilan de la gigantesque déflagration sur le plus grand port du pays ne cesse d'augmenter, au moins 40 morts, un millier de blessés, et l'origine de cette déflagration reste encore inconnue ce soir. La page des sports, avec du cyclisme, la course Liège-Bastogne. Liège, elle a été remportée cet après-midi par le Slovène Tadej Pogačar. Et puis le temps de demain, lundi, Magali Rochereau, ce sera instable sur les reliefs.
Oui Eric, mais partout ailleurs, le ciel se dégage et le mercure est en hausse.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Il était accusé par la LICRA, SOS Racisme et une partie de la gauche d'un manque de réactivité. Bruno Retailleau s'est rendu cet après-midi dans la sous-préfecture d'Alès, 48 heures après la mort d'un jeune musulman attaqué au couteau dans la mosquée voisine de la Grand-Combe. Le ministre de l'Intérieur a rencontré une partie de la communauté musulmane en lui adressant ses quelques mots de soutien.
Je voudrais leur dire, parce qu'ils ont été profondément choqués, que je suis français, que je suis très attaché à la République française. Et c'est la République qui nous unit tous. Être français, ça n'est pas une question de couleur de peau, ça n'est pas une question de religion, ça n'est pas une question de condition sociale. On est français, un point, c'est tout. Et jamais je ne laisserai passer quoi que cela soit qui puisse trier entre nos compatriotes. Je voudrais leur dire vraiment la plus totale solidarité de l'ensemble du gouvernement. Et nous nous tenons évidemment en cet instant, comme depuis vendredi, à leur côté. En tant que ministre de l'Intérieur, je peux vous dire que nous avons donné tous les moyens possibles, imaginables, pour qu'on puisse rattraper très très vite cet individu. Nous avons mobilisé plus de 70 enquêteurs de Montpellier, de Nîmes, Paris et même d'autres territoires français. Et croyez-moi, ça prendra, j'espère, le moins de temps possible, mais nous l'aurons.
Bruno Retailleau à la sous-préfecture d'Alès cet après-midi dans le Gard, auprès de quelques dignitaires musulmans. Le ministre de l'Intérieur annonce aussi une protection renforcée autour des mosquées. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
Service politique de France Inter. Le ministre de l'Intérieur a donc voulu cet après-midi faire taire les critiques de ceux qui lui reprochent deux poids deux mesures dans ses réactions sur les homicides en France.
Oui, alors que l'assassinat a eu lieu vendredi, aucun ministre n'avait jusqu'à aujourd'hui fait le déplacement auprès des proches de la victime. Certains font une comparaison avec l'attaque au couteau dans un lycée de Nantes jeudi, qui a attiré le jour même plusieurs membres du gouvernement, dont Bruno Retailleau. La vie des musulmans n'a semble-t-il pas la même valeur aux yeux du ministre de l'Intérieur, écrit le député LFI Thomas Porte sur X. Les critiques sont nombreuses, surtout à gauche. Bruno Retailleau a une responsabilité particulière lorsqu'un lieu de culte est attaqué, souligne le député socialiste Arthur Delaporte.
Il est très bon quand il s'agit de mettre de l'huile sur le feu, de jeter l'opprobre sur les musulmans. Et puis quand il s'agit de montrer un soutien envers des musulmans attaqués, là on peut avoir l'impression qu'il a plus de prudence. Et donc c'est ce deux poids deux mesures qui choque, qui pose problème, puisque le ministre de l'Intérieur, garant de la laïcité, garant aussi de la sécurité des cultes, doit être le ministre de tous les cultes.
Bruno Retailleau a pourtant fait part dès vendredi, je cite, de son soutien à la famille de la victime et de sa solidarité à la communauté musulmane, parlant d'un événement épouvantable. Une réaction jugée donc insuffisante par certains. Le programme du ministre n'était pas finalisé dans la mesure où une marche blanche était organisée en tout début d'après-midi en hommage à la victime. Et Bruno Retailleau était très attaché à ne pas perturber ce moment de recueillement, se justifie-t-on dans son entourage.
J'ajoute deux autres réactions cet après-midi, celle du réacteur de la, du recteur, pardon, le recteur de la mosquée sud Nîmes. Il aurait préféré, dit-il, que monsieur Retailleau vienne sur les lieux du drame et non pas à la sous-préfecture d'Alès voisine. Réaction également du président Macron qui écrit sur X que le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. Concernant l'enquête, maintenant, le procureur d'Alès a redit cet après-midi que la piste d'un acte anti-musulman reste privilégiée, même si elle n'est pas la seule. Et les avocats de la famille de la victime malienne demandent la saisine du parquet national antiterroriste. Claire Flochel le disait à l'instant, cet après-midi, ils étaient 2000 personnes à participer à une marche blanche à la Grand Combe, cette commune de 5000 habitants au nord d'Alès. Manifestation également à Paris depuis 18h. Ça se passe Place de la République, il y aurait près de 2000 personnes rassemblées. Là où vous êtes, Victor Costamounier, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Rassemblement donc en ce moment contre l'islamophobie.
Oui, dans une ambiance plutôt calme. Il y a eu plusieurs prises de parole en même temps, il y a de ça une heure. D'un côté de la place, un homme s'est exprimé au mégaphone pour demander la justice pour Aboubakar, mais aussi pour dénoncer un climat propice au drame comme celui qui s'est produit vendredi. De l'autre côté de la place, des prises de parole plus officielles devant des élus de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier ou encore Éric Coquerel. Et puis, aux alentours de 18h30, une minute de silence a été observée. Minute de silence à l'issue de laquelle j'ai rencontré Zeyneb, 23 ans, de confession musulmane, qui tenait à être présente ce soir.
Je trouve ça en fait important en fait de savoir se mobiliser quand il y a quelque chose, il y a un événement terroriste, que ce soit concernant les musulmans, puis même concernant les personnes d'autres confessions, comme l'attaque récemment du rabbin qui a eu lieu, ou même les attaques en général. De savoir se mobiliser, montrer son soutien, montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on est jeune et qu'on a envie de changement, qu'on a envie de plus de pacifisation, qu'on apprenne à se tolérer les uns les autres en fait et à tous vivre ensemble. Et je pense que c'est très important pour nous en tant que jeunes aujourd'hui d'apprendre à nous soutenir, à montrer de la solidarité et apprendre à vivre ensemble.
Voilà pour le témoignage de Zeyneb. Les manifestants qui sont toujours présents, Place de la République à Paris, à ce rassemblement contre l'islamophobie, où l'on peut voir ici des drapeaux algériens, français, palestiniens, là une pancarte, Aboubakar on t'aime, ou encore l'islamophobie tue, et les prises de parole qui continuent.
Victor Costa-Mounier, en direct donc de la Place de la République à Paris, avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon souhaite faire respecter une minute de silence à l'Assemblée nationale, en mémoire donc à la victime de la mosquée de la Grand Combe dans le Gard. Comment lutter contre l'épidémie de chikungunya à La Réunion comme à Mayotte? Les autorités sanitaires, vous le savez, ont retiré sans délai les plus de 65 ans de cette campagne de vaccination. Hier, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France appelait à suspendre totalement la vaccination après 3 réactions indésirables graves, dont un décès. Eh bien, à l'inverse, aujourd'hui, le gouvernement encourage ceux qui le peuvent à se faire vacciner contre le chikungunya. La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a estimé aujourd'hui sur France Inter que François Bayrou s'était parjuré devant l'Assemblée nationale en assurant n'avoir rien su de l'affaire Betaram. Cela fait suite aux propos de la fille du Premier ministre qui a expliqué vendredi que son père et elle avaient évoqué en 1998 le sujet des violences dans cet établissement d'enseignement catholique. Son père lui aurait même dit en avoir parlé à un juge en charge d'une affaire de viol.
France Inter, Éric Delvaux.
Le Canada, sous le choc, après l'attentat hier soir dans la ville de Vancouver, 11 personnes ont été tuées, beaucoup d'autres blessées. Une voiture a foncé sur la foule durant un festival de la communauté philippine. L'auteur, le conducteur, a été interpellé, l'auteur présumé. La police exclut un acte terroriste et ce drame arrive à la veille des élections législatives au Canada. Le Premier ministre, candidat à sa succession, Mark Carney, s'est voulu apaisant cet après-midi.
Les autorités ont confirmé qu'une personne est en détention et nous pensons qu'elle a agi seule. Nous ne pensons pas actuellement qu'il y ait une menace active pour les Canadiens. La nuit dernière, des familles ont perdu une sœur, un frère, une mère, un père, un fils ou une fille. À eux et aux nombreuses personnes qui ont été blessées, à la communauté philippine du Canada et à tous, je voudrais offrir mes condoléances les plus profondes et tous mes vœux de force et de compassion dans ce moment tragique. Je sais que les Canadiens sont unis avec vous. Nous allons prendre soin les uns des autres. Nous serons unis pour un but commun.
Intervention donc du Premier ministre canadien Mark Carney, envoyé par notre envoyé spécial au Canada, Étienne Monin. Je précise que la police canadienne dit ce soir que l'assaillant présumé souffrait de quelques troubles psychiatriques. Le Groenland ne sera jamais une propriété à vendre, mise au point du nouveau Premier ministre de ce territoire autonome danois. Jean-Frédéric Nielsen était en visite aujourd'hui à Copenhague et il répondait à Donald Trump qui n'écarte pas une annexion du Groenland depuis qu'il a pris ses fonctions à la Maison-Blanche. Après la messe, après l'inhumation du pape François à Rome, arrive le temps de la campagne pour lui trouver un successeur. Les cardinaux se sont retrouvés cet après-midi à Sainte-Marie-Majeure, là où repose François, dans une basilique où plus de 30 000 fidèles sont venus se recueillir depuis ce matin. Alors, le conclave ne se tiendra pas avant le lundi 5 mai, car il s'agit de respecter les 9 jours de prière pour le pape défunt. Mais dès aujourd'hui, donc, une nouvelle grande messe s'est tenue place Saint-Pierre à Rome. Grande messe présidée par l'un des favoris à la succession de François. Et les images sont troublantes, Maxence Lambrecq.
Comme si la place était déjà prise.
Fratelli et sorelle,
le cardinal Parolin fait face à 200 000 jeunes venus pour le jubilé. Il n'y a que la couleur de sa calotte rouge et de son siège beige qui permettent la distinction. Son homélie a tout l'air d'un discours de campagne. Votons pour un fidèle de François.
Permettez-moi de dire...
Permettez-moi de le dire, notre affection pour lui qui se manifeste en ces heures ne doit pas rester une simple émotion du moment. Nous devons accueillir son héritage en devenant nous aussi miséricordieux les uns envers les autres.
Il se présente donc comme l'héritier, lui qui fut son bras droit tout au long du pontificat. Le diplomate Parolin a parfois arrondi les angles ou contredit son chef il y a 10 ans. Il voyait dans le mariage homosexuel une défaite pour l'humanité et ferait donc office de synthèse. La campagne se joue aussi dans la presse. Le cardinal allemand Müller multiplie les interviews pour dire qu'une page se tourne, qu'il ne faudrait pas un pape hérétique, comprenez progressiste.
À vous, au monde entier, Papa Francesco.
S'adresser ainsi au monde entier, parler au nom du pape défunt, c'est déjà faire preuve d'une certaine assurance. Pietro Parolin est bien candidat.
Maxence Lambrecq, envoyé spécial de France Inter à Rome. Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est rendu aujourd'hui dans le plus grand port commercial d'Iran, toujours en proie aux flammes ce port, au lendemain d'une énorme explosion qui a fait au moins 40 morts, plus d'un millier de blessés. L'origine de la déflagration reste inconnue. Bonsoir Noé Pignède.
Bonsoir.
Malgré l'ampleur de la catastrophe, le régime iranien se veut ce soir assez rassurant.
Oui, sur les télévisions d'État iraniennes, des images du président au chevet des blessés tournent en boucle. Le chef d'état-major de gestion de crise assure que 80% de l'incendie est maintenant éteint. Et le ministère du Développement affirme que l'acheminement des marchandises fonctionne presque normalement. Selon les informations du New York Times et d'une société de sécurité privée britannique, l'explosion d'hier provient bien d'un stock de carburant de missiles appartenant aux gardiens de la Révolution, information démentie par le régime qui promet une enquête sur les circonstances du drame. Mais déjà, le camp conservateur iranien sème le doute quant à l'origine de l'explosion. Il pointe du doigt Israël. C'est le coupable idéal. Hein. Tel Aviv avait déjà lancé une cyberattaque contre ce même port de Shahid Rajaï il y a 5 ans. Et Israël a été massivement visé par des missiles iraniens en octobre dernier. Ce qui alimente aussi la rumeur, c'est bien sûr le timing. Hein. Hier, au moment de l'explosion, des émissaires de Téhéran et Washington étaient autour d'une même table à Oman, en pleine négociation sur le nucléaire iranien.
Noé Pignède, rédaction internationale de Radio France. Certains Palestiniens l'appellent la guerre silencieuse. Alors que les regards sont tournés vers Gaza, la Cisjordanie occupée, comme Jérusalem-Est annexée, connaissent eux aussi des destructions d'habitations, des maisons palestiniennes détruites par centaines, rasées au bulldozer ou bien explosées devant des habitants aussi impuissants que désespérés. Selon les chiffres de l'ONU, 1617 bâtisses ont ainsi été détruites l'an dernier. Notre correspondante Amira Swilem s'est rendue à Silwan, c'est en bordure de la vieille ville de Jérusalem, auprès d'une famille palestinienne dont la maison va être détruite dans les jours à venir. Reportage.
Depuis plusieurs jours, chez les Aouda, un seul sujet de discussion.
Regarde, c'est le dernier avertissement avant qu'ils ne viennent détruire l'aile de la maison dans laquelle vit mon frère avec sa famille.
Depuis la réception de ce courrier, la vie de Koutaïba Aouda et de sa famille est en suspens. Dans le salon, la mère de famille raconte ses déboires à des proches.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ma petite fille a déplacé sa tirelire chez son autre grand-mère parce qu'elle a peur que les soldats la lui prennent.
Kouteiba Aouda nous sert de guide dans le dédale des ruelles. Dans ce seul quartier, 26 maisons ont été détruites l'an dernier, dit-il.
Quand on te détruit ta maison, tu n'as nulle part où aller. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de louer un bien dans le coin.
Les autorités israéliennes disent détruire des constructions illégales. Les Palestiniens répondent, eux, qu'on ne leur octroie pas de permis de construire.
La municipalité détruit les maisons, mais ça ne s'arrête pas là. Après ça, ils nous envoient la facture du bulldozer, des soldats, des chiens, tous les frais en lien avec la destruction de la maison. Donc on se retrouve à devoir payer pour que nos maisons soient détruites.
Alors que le gouvernement israélien compte des partisans assumés du Grand Israël, rien ne semble pouvoir arrêter cette frénésie de destruction. Amira Suilem, Jérusalem, pour France Inter.
Il est 19h15. La page des sports avec cette course cycliste Liège-Bastogne-Liège remportée encore une fois par Tadej Pogacar. Il était à la fois le tenant du titre et le favori. Le Slovène a lancé une attaque à un peu plus de 30 km de l'arrivée. Bonsoir François Ventejou.
Bonsoir Eric.
Vous êtes en direct de Liège et finalement Pogacar s'est imposé en solitaire.
Oui, le Slovène a réalisé une démonstration sur ce quatrième monument de la saison. Le scénario prévu par son équipe s'est déroulé à merveille avec, à 35 km de l'arrivée, une attaque assise sur sa selle dans la côte de la Redoute.
J'ai eu le sentiment que c'était le moment d'attaquer. Dans le pire des cas, j'aurais attendu que deux coéquipiers reviennent. Mais finalement, ça a suffi.
En 30 km, Tadej Pogacar a creusé un écart définitif, plus d'une minute sur Giulio Ciccone, le deuxième, et Ben Hilly, le troisième. Personne n'a pu rester dans ses roues, pas même Remco Evenepoel, relégué à la 59e place. Le directeur sportif du Slovène, Mauro Genetti, est surpris par son coureur.
C'était peut-être plus facile que ce qu'on pensait à la fin, même si c'est jamais facile, parce que Remco, peut-être, il n'était pas dans une bonne journée. Il a pris la redoute de l'autre derrière. Et puis bon, il a décidé de continuer, quoi. Et donc, c'était bien.
Bien, même mention très bien pour Tadej Pogacar. Il décroche avec cette course son 9e monument. Cela lui permet de dépasser Mathieu Van Der Poel et d'égaler la légende italienne Fausto Coppi. De bon augure avant, je cite, le gros objectif de la saison, avec bien sûr le Tour de France.
François Ventejou, en direct de cette course Liège-Bastogne-Liège, remportée donc par Tadej Pogacar. Ce sera demain l'un des titres de l'actualité. Le procès de ce qu'on a appelé les deux papis braqueurs. C'était en octobre 2016, dans un hôtel de luxe parisien, deux hommes cagoulés avaient dérobé l'équivalent de 9 millions d'euros de bijoux dans la chambre où se trouvait l'influenceuse américaine Kim Kardashian, notamment la bague de fiançailles offerte par le rappeur Kanye West, évaluée à 3,5 millions d'euros. Et bien 9 ans après, ils seront 10 demain, 10 devant la cour d'assises de Paris, les deux cambrioleurs présumés, mais aussi des informateurs et des revendeurs. Aujourd'hui, la plupart sont âgés, ce qui pose d'ailleurs quelques problèmes et ça risque de compliquer le déroulé de l'audience prévue jusqu'au 23 mai prochain, Charlotte Piré.
Ça va être l'EHPAD, déplore un des avocats de la défense, car l'âge avancé des accusés et l'état de santé de plusieurs d'entre eux implique des conditions d'audience très difficiles, à commencer par le principal accusé, celui que les juges d'instruction estiment être l'organisateur de l'opération et l'un des braqueurs de Kim Kardashian. Cet homme, qui fêtera ses 69 ans au cours du procès, souffre d'une surdité importante, au point de nécessiter un aménagement adapté. Un logiciel d'intelligence artificielle a été testé sans résultat concluant. La piste désormais envisagée est celle de sténodactylo pour retranscrire l'ensemble des débats. Des débats qui seront également contraints par la chimiothérapie d'un des accusés en récidive de cancer, la maladie de Parkinson d'un autre, l'incapacité à comparaître d'un troisième dont le cas sera donc disjoint dans l'idée de le juger plus tard. Enfin, l'un des mis en cause accusé d'être le revendeur des bijoux est décédé il y a quelques semaines. Bref, dans tout cela, la cour d'assises de Paris va tenter de maintenir le cap des débats pour déterminer les responsabilités de chacun dans le vol de 10 millions d'euros de bijoux Moscou et la séquestration d'une des femmes les plus connues au monde.
Charlotte Piret, service police-justice de France Inter. Kim Kardashian a fait savoir qu'elle viendrait à Paris pour témoigner à ce procès qui débutera demain. Son audition est prévue le 13 mai prochain. Je vous rappelle que c'est demain, lundi, que la circulation des trains redeviendra normale en gare de Tours. Le trafic était paralysé depuis un mois après l'incendie d'un poste d'aiguillage. On va terminer avec cette lettre de Napoléon faisant mine à l'époque de désapprouver l'arrestation du pape Pie VII, qu'il avait pourtant ordonné, arrestation qu'il avait ordonnée. Eh bien, cette missive, qui date du 23 juillet 1809, a été vendue aujourd'hui aux enchères à Fontainebleau, 26 360 euros. Elle restera dans l'histoire de France comme l'une des grandes manœuvres politiques. Le temps.
La météo, avec Préfond, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfond.fr.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Eric.
Demain, le temps va s'améliorer globalement.
Oui, après dissipation des grisailles et des brouillards dans le tiers nord du pays, le soleil devient majoritaire sur de nombreuses régions, même si on conserve un peu d'air froid en altitude qui génère encore de l'instabilité et des averses au-dessus des Pyrénées, du Massif central, du Jura et des Alpes, jusqu'à l'orage dans l'après-midi sur la montagne Corse. Quelques ondées peuvent déborder également sur les plaines environnantes, en moyenne vallée du Rhône, sur le Quercy et la Dordogne. Et puis le vent d'Est se lève sur les côtes de Manche et de l'Atlantique, comme le vent d'Otan dans le sud, jusqu'à 60 km/h en soirée.
Et les températures toujours à la hausse?
Oui, lentement et régulièrement, elles vont monter jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Demain matin, vous aurez 5 à 10 degrés en général à votre réveil, et 11 à 15 en bord de Méditerranée. L'après-midi, ça grimpe. Entre 17 et 21 degrés prévus sur les côtes de Manche, entre 20 et 24 partout ailleurs et jusqu'à 25 degrés sur la ville de Rouen, ce qui dépasse les valeurs saisonnières.
Les prévisions de Magali Rochereau.
Merci Eric.